Bonjour, Régis Coulanges. Je suis conseiller national d'Amnesty International pour la région PACA et je vous propose une émission sur les droits humains et l'action d'Amnesty pour le respect de ces droits. Cette émission s'appelle « Pour la dignité ». Tous les derniers lundis de chaque mois, de 16h30 à 17h30 sur Fréquence Mistral 99.3.
Sur Fréquence Mistral 99.3.
Et sur Fréquence Mistral, l'émission Pour la Dignité. Et là, j'ai le plaisir de recevoir Régis Coulanges et Martine Myrte pour cette émission Pour la Dignité. Bonjour, messieurs, dames.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, Régis, que nous avez-vous concocté pour votre émission mensuelle?
Voilà, alors aujourd'hui, nous allons parler d'armes, du commerce des armes, et puis aussi d'une demande de libération de Nasrin Sotoudeh. D'un procès sur quelqu'un qui est venu en aide aux migrants, et puis quelques nouvelles brèves, et puis une exposition d'un jeune réfugié afghan. Voilà pour ce sommaire. Nous allons donc commencer par la campagne que nous venons de commencer, qui s'appelle « Silence on arme ». C'est une campagne notamment en direction de la France, puisque la France est le troisième exportateur d'armes au monde. C'est un commerce qui est considéré comme un fleuron industriel pour notre pays. Mais ce fleuron, nous ne connaissons pas vraiment exactement ce qui s'y passe. Il y a une grande opacité, et notamment au niveau des parlementaires, puisque même les parlementaires ne sont pas toujours au courant des ventes que notre pays fait. Et ceci, c'est en contradiction, bien sûr, avec le traité du commerce des armes, ce qu'on appelle le TCA, qui a été fait à l'ONU sous pression d'organisations non gouvernementales, dont Amnesty International, bien sûr, qui était en tête pour demander qui est ce traité sur le commerce des armes. Et en fait, ce traité est assez simple dans ce sens qu'il demande que les pays qui vendent des armes ne puissent pas vendre des armes à un autre pays qui utiliserait ces armes contre sa population, par exemple, ou pour commettre des crimes, de graves crimes, notamment sur les civils ou de bombardements d'hôpitaux. Voilà. Donc, c'est assez simple dans ce qu'on demande, ce que demande ce traité pour le commerce des armes. La France a signé et ratifié ce traité. Et pourtant, il y a de graves manquements des autorités françaises en matière de transparence et de contrôle. Et on les soupçonne beaucoup par rapport aux ventes d'armes qui ont été faites à l'Arabie Saoudite dans sa guerre contre le Yémen. On a mené aussi une action en justice par rapport aux bateaux qui ont été vendus à la Libye. Voilà, donc il y a beaucoup d'opacité. Et pourtant, 83% des Français pensent que le commerce des armes français manque de transparence. 75% des Français pensent que le commerce des armes en France devrait faire l'objet d'un débat public. Donc on exige du gouvernement qu'il rende des comptes de ses exportations d'armes, que les parlementaires, qui sont garants incontournables du débat démocratique, doivent pouvoir jouer leur rôle, exercer un meilleur contrôle de ces ventes d'armes. Alors, pour bien comprendre ce commerce des armes, je vais vous faire passer une petite vidéo. En fait, ce n'est pas une vidéo. Vous pouvez voir la vidéo sur le site d'amnesty.fr, mais sur YouTube aussi. Hein. Donc, ça s'appelle dans la série « Voir pour comprendre ». Et là, c'est « Comprendre le commerce des armes ». Voilà une petite explication sur ce commerce un peu particulier.
Commerce des armes. Voir pour comprendre, le commerce des armes. Guerre, répression armée, criminalité. Chaque année, un demi-million de personnes sont tuées par armes. Plusieurs milliers d'hommes, de femmes et d'enfants meurent faute d'accès aux soins, à l'eau ou à la nourriture, piégés dans des conflits alimentés par la circulation non réglementée des armes classiques. Toutes les minutes, une personne meurt à cause d'une arme. Et toutes les minutes, 15 nouvelles armes sont fabriquées pour être vendues. Or, les États sont les acteurs principaux de ce commerce trop souvent irresponsable. Bon, je sais que ce n'est pas incroyablement fun, mais pour bien comprendre, on a quand même besoin de quelques définitions, donc commençons. Une arme est définie comme un outil ou un dispositif destiné à neutraliser, blesser, tuer ou causer une destruction matérielle. D'un côté, il y a les armes de destruction massive, biologiques, chimiques, nucléaires, qui sont contrôlées. Et de l'autre, les armes classiques, dites aussi conventionnelles. Le registre des Nations Unies distingue 7 catégories d'armes classiques à surveiller. Les systèmes d'artillerie de gros calibre, les avions de combat, les chars de combat, les hélicoptères d'attaque, les véhicules blindés de combat, les navires de guerre, les missiles et les lanceurs de missiles. Cette liste d'équipements militaires est très insuffisante. Elle n'inclut pas les armes légères et de petit calibre. Or, depuis les années 90, la communauté internationale s'intéresse de près à ces armes légères en raison de leur prolifération incontrôlée et de leur usage facile. Près de 100 millions d'AK-47 et de modèles dérivés circuleraient dans le monde. Même de jeunes enfants peuvent les manier. Pourtant, elles font infiniment plus de victimes que les autres types d'armes. Quasiment chaque année, le nombre de morts causées par ces armes dépasse largement celui des victimes des bombes atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. Un premier essai de définition a été tenté par un groupe d'experts gouvernementaux de l'ONU. Ils ont distingué deux sous-groupes, les armes de petit calibre, utilisables par une seule personne, et les armes légères qui nécessitent un travail d'équipe. À cela s'ajoutent les munitions et explosifs, sans lesquels, bien entendu, les armes n'ont aucun effet. Enfin, il reste les équipements utilisés à des fins de sécurité et de maintien de l'ordre, qui servent fréquemment à réprimer toute contestation populaire. Il s'agit des menottes, véhicules anti-émeutes à canon à eau, véhicules blindés, munitions pour carabines, armes à feu, matraques, gaz lacrymogène, munitions, comme les balles métalliques recouvertes de caoutchouc et les balles matraques en caoutchouc dur, grenades aveuglantes et assourdissantes. Cette liste n'est pas exhaustive. Le fameux taser fait partie de ces équipements. Alors qu'il est présenté comme une arme à létalité réduite ou non meurtrière, il a causé de nombreux décès. Vous l'avez compris, il n'y a pas de définition simple et complète de ce qu'est une arme, et l'usage du matériel est tellement varié que cela rend encore plus complexe la situation. Pourtant, même le recours aux armes par des États est régi par des règles. En cas de conflit, c'est le droit international humanitaire qui s'en occupe. Il dit que les cibles des attaques doivent être limitées aux combattants et donc épargner les civils, leurs biens et toute personne qui a cessé de se battre. De plus, les opérations militaires ne doivent pas provoquer de pertes ou de dommages excessifs par rapport à l'avantage militaire attendu. Il interdit également d'utiliser des armes qui ne font pas la distinction entre les civils et les militaires, des armes qui infligent des blessures superflues ou des souffrances inutiles. Le droit international des droits humains, lui, reste en vigueur en complément du droit international humanitaire. En dehors de tout conflit, il est simplement interdit de recourir à un usage excessif de la force. Pourtant, sur de nombreux territoires en guerre, ces deux droits ne sont pas respectés. Intensification et allongement dans le temps du conflit, augmentation du nombre d'utilisateurs, multiplication des exactions, c'est justement la prolifération des armes qui joue un rôle déterminant dans leur violation. Et cette situation, toujours du fait de l'abondance des armes disponibles, continue même après la résolution du conflit. Comment en est-on arrivé là ? Pour comprendre, il faut regarder en arrière pendant la guerre froide. De 1947 à 1991, les deux blocs se sont massivement équipés en armes classiques et en armes nucléaires. Ils ont approvisionné les régimes amis et les groupes rebelles adversaires de l'autre bloc. Leur business a continué, favorisé par l'absence de contrôle et la multiplication des conflits entre États. De 1988 à 1998, la priorité était de se débarrasser des stocks d'armes devenus inutiles sans s'occuper de ce qu'ils deviendraient. Des courtiers comme Leonid Minin ou Victor Boot ont profité de cette situation en livrant des tonnes de munitions et d'armes en dépit des embargos. Et puis, il y a eu les attentats du 11 septembre 2001 et la lutte contre le terrorisme a permis de justifier les dépenses militaires et les ventes d'armes. Et même si la situation est de plus en plus préoccupante, il n'y a toujours pas de contrôle et les règles d'exportation des armes ne sont pas assez homogènes ni contraignantes. Elles laissent trop de liberté aux marchands d'armes peu soucieux des droits humains. Pourtant, il est évident que la vente d'armes n'est pas un commerce comme les autres. Et c'est effarant de voir que, par exemple, l'Europe refuse de vendre des jouets qui pourraient blesser un enfant, mais vend à d'autres pays des millions d'armes qui ont tué des milliers. Et aujourd'hui, quel est le problème ? Le commerce mondial des armes est un commerce très complexe, très difficile à encadrer, d'autant plus que le marché de l'armement s'est mondialisé dans les années 90. Presque aucune arme moderne n'est fabriquée intégralement en un lieu unique. Par exemple, l'hélicoptère de combat Apache comporte une grande part de composants d'origine étrangère. Selon John Schiebler, directeur de la construction de l'Apache chez Boeing, il y a plus de 6000 pièces dans l'Apache, fabriquées dans le monde entier. Est-ce que vous voulez un autre exemple parmi des centaines pour bien comprendre cette complexité ? Ok, les producteurs d'armes recourent à l'achat de biens à double usage pour fabriquer leurs équipements. Ces biens peuvent avoir une utilisation tant civile que militaire et ne sont pas nécessairement contrôlés, comme les circuits intégrés à micro-ondes utilisés dans les antennes paraboliques et les téléphones mobiles qui se retrouvent dans les missiles Hellfire. Sans oublier que le transfert des armes par les États, c'est-à-dire leur exportation, comporte plusieurs étapes. Négociation, achat et vente, obtention d'une autorisation d'exportation et d'une autorisation d'importation, transport, transit, transbordement et livraison au destinataire final. Le cadre juridique de ces transferts est insuffisant et si un transfert est autorisé, cela ne signifie pas qu'il est légal. Par exemple, l'utilisation finale des armes peut violer le droit international. L'un des acteurs clés du transfert, c'est le courtier immortalisé par Nicolas Cage dans Lord of War. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'un trafiquant d'armes. Ces courtiers sont souvent impliqués dans des livraisons d'armes dans des zones qui violent les droits humains et qui sont sous embargo de l'ONU, comme par exemple le Soudan du Sud, l'Irak, la République démocratique du Congo et la Libye. À ce titre, les courtiers constituent à eux seuls une menace pour la paix et la sécurité internationale. Même le fameux certificat d'utilisation finale, censé assurer que l'usage des armes se fera dans le respect du droit, est souvent insuffisant. Non seulement peu de pays le pratiquent, mais en plus, il est facile d'obtenir, dans certains cas, de faux certificats tant le commerce des armes est corrompu. 50% des pots de vin de l'ensemble du commerce mondial sont payés pour des contrats de l'industrie de la défense. Cette corruption et des réglementations laxistes permettent aussi de faire disparaître des radars, des cargaisons très encombrantes qui nécessitent pourtant des moyens lourds et très visibles. Pavillons de complaisance maritime et aérien, maquillage des bateaux, transfert d'un bateau à un autre dans les eaux internationales, zones franches, sociétés écrans comme au Royaume-Uni, paradis fiscaux, banques offshore, tous les moyens sont bons. Quant au contrôle post-exportation, ils ont rarement lieu. Ok, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe au niveau mondial ? Parmi les premiers exportateurs d'armes, on retrouve les 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU, les États-Unis, la Russie, la Chine, le Royaume-Uni, la France ainsi que l'Allemagne. Conseil qui, rappelons-le, a la responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Pourtant, leurs exportations d'armes empêchent parfois le développement des pays acheteurs. Les dépenses d'armement se font au détriment des dépenses d'infrastructures, d'éducation, de santé, de protection de l'environnement. Elles accaparent aussi le revenu des ressources naturelles, le pétrole du Soudan et de l'Angola, le bois du Cambodge, le coltan de la République démocratique du Congo, les diamants de la Sierra Leone, engloutis dans l'achat des armes au lieu de renforcer l'économie du pays. C'est comme ça qu'entre 1990 et 2005, 23 pays africains ont littéralement perdu, à eux tous, une somme estimée à 284 milliards de dollars suite à des conflits armés alimentés par des transferts de munitions et d'armes. Les fournisseurs d'armes contribuent également à alimenter la répression interne et les conflits armés. Là encore, les exemples sont aussi nombreux que préoccupants. Au cours des dernières années, les autorités égyptiennes ont choisi la répression sous prétexte de rétablir la stabilité dans le pays. Certains pays ont suspendu leurs transferts d'armes suite à la mort de centaines de manifestants tués par les forces de sécurité en août 2013. Mais pas tous. 12 des 28 États membres de l'Union européenne ont continué à fournir des armes sans s'inquiéter de se rendre complices d'homicides, de disparitions forcées et de tortures. Qui sont-ils ? L'Allemagne, la Bulgarie, Chypre, l'Espagne, la France, la Hongrie, l'Italie, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni et la Slovaquie. Même situation au Yémen. Alors que de nombreuses informations confirment que la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite mène des attaques directes contre des hôpitaux et des cibles civiles, des États membres et signataires du traité sur le commerce des armes continuent de fournir des armes. Et la France dans tout ça ? Elle joue à merveille la carte de l'hypocrisie. Quatrième vendeur mondial d'armes, elle s'est engagée en faveur d'un traité international sur le commerce des armes, mais elle manque encore de rigueur dans son application. Même si elle siège au Conseil de sécurité des Nations Unies et veille à l'application des embargos sur les armes, au niveau national, la France ne dispose pas de cadre juridique exhaustif pour sanctionner efficacement leurs violations. C'est grâce à ce manque de cadre que le trafiquant d'armes français Robert Montoya, ancien gendarme de la cellule antiterroriste de l'Elysée, n'a jamais été poursuivi alors qu'il a fourni du matériel de guerre à la Côte d'Ivoire en dépit de l'embargo de 2004. Par ailleurs, la France n'a pas de dispositif juridique complet pour encadrer efficacement l'activité des marchands d'armes. Enfin, elle manque de transparence sur ses exportations d'armement, ce qui empêche tout débat démocratique qui serait pourtant le bienvenu, alors même que le Parlement ne s'y intéresse pas du tout. Bon, clairement, l'état des choses était loin d'être idéal et il était largement temps de se bouger pour changer ça. S'il n'est pas question de contester le droit légitime des États à s'armer pour protéger leur population, il s'agit de mieux contrôler les transferts internationaux d'armes d'un pays à l'autre. Car chaque jour, des millions d'hommes, de femmes et d'enfants vivent dans la peur des massacres, des assassinats, des tortures, des violences sexuelles, des disparitions et des déplacements forcés. La violence induite par l'usage des armes bafoue également les droits économiques, sociaux, culturels, civils ou politiques, pourtant garantis par le droit international. En 2001, les armes légères ont été reconnues comme armes de prédilection dans 46 des 49 plus grands conflits que la planète a connus depuis 1990. Aujourd'hui, 80% des victimes sont des civils, alors que la proportion était inverse au début du XXe siècle. À y regarder de plus près, Vendre des armes à un pays totalitaire, c'est souvent l'armée contre son peuple, non ? Face à cette situation catastrophique, des pressions à l'échelle mondiale, politique et citoyenne ont incité les Nations Unies à ouvrir des négociations en vue de l'adoption d'un traité sur le commerce des armes, le TCA. En 2003, un groupe d'ONG, avec à sa tête Amnesty International, Oxfam et le Réseau d'Action Internationale sur les Armes Légères, soutenu par 18 lauréats du prix Nobel de la paix, ont lancé, dans plus de 50 pays à travers le monde, la campagne « Contrôler les armes ». Cette année-là, seuls 6 États, le Brésil, le Cambodge, le Costa Rica, la Finlande, la Macédoine et le Mali, se déclaraient favorables à l'adoption d'un traité sur le commerce des armes. En décembre 2006, la campagne connaît un tournant historique avec l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies de la résolution 6189. Elle appelle tous les États membres à travailler à l'adoption d'un traité établissant des normes internationales communes pour l'importation, l'exportation et le transfert d'armes classiques. En 2009, après 3 années de consultation, les Nations Unies lancent officiellement le processus de négociation et d'adoption du premier traité de l'histoire consacré au commerce des armes. Et où en est-on maintenant ? Après plus de 10 ans de négociations internationales et 20 ans de campagne de mobilisation, le traité de commerce des armes est entré en vigueur le 24 décembre 2014 et compte 92 États parties et 130 États signataires. Parmi les États parties, on retrouve de grands exportateurs comme la France, le Royaume-Uni ou encore l'Allemagne. Ils couvrent les armes du registre des Nations Unies, les armes légères et de petit calibre, leurs munitions et les pièces et composants. Le TCA est le premier traité fixant des normes mondiales pour réglementer le commerce international des armes classiques et des munitions. A ce titre, il peut sauver des milliers de vies en prévenant les transferts et exportations d'armes irresponsables. Car si les embargos sont toujours indispensables, ils interviennent en général trop tard. Sans compter que 90% des armes illicites proviennent du commerce dit « légal ». Il permet de lutter contre le terrorisme, la criminalité internationale organisée, le trafic illicite d'armes et leur détournement, et aussi contre l'enrôlement des enfants soldats. Dorénavant, les droits humains sont pris en compte lorsqu'il est question de commerce des armes. Les États ont même l'obligation d'interdire les transferts lorsqu'ils apprennent, au moment de l'autorisation, que les armes pourraient servir à commettre un génocide, des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre. En améliorant la transparence sur les exportations et les importations d'armes, ce traité nourrit la confiance entre les États. Alors, c'est vrai, il reste encore du chemin à parcourir. Les États-Unis et Israël, pourtant signataires, n'ont toujours pas ratifié ce document, tandis que certains gros fabricants d'armes, comme la Chine et la Russie, ou gros importateurs, comme l'Inde, l'Égypte ou l'Arabie Saoudite, sont totalement opposés au traité. Mais il faut garder en tête que c'est la seule solution efficace pour résoudre ce problème planétaire. C'est pourquoi les États parties doivent continuer à encourager les autres pays à rejoindre le TCA. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Nelson Mandela.
Et maintenant, une chanson de Yannick Noah, Aux arbres citoyens. Chanson dans laquelle il a changé le mot « arme » par « arbre ».
Le ciment dans les plaines coule jusqu'aux montagnes, poison dans les fontaines, dans nos campagnes. De cyclone en rafale, notre histoire prend l'eau, reste notre idéal, faire les beaux. De l'air en bas, remplir la balance, quelques pétrodollars contre l'existence. De l'équateur au pôle, ce poids sur nos épaules, de squatteurs éphémères, maintenant c'est plus trop. Puisqu'il faut changer les choses, citoyens, quelques baffes à prendre. La veille est pour demain, des baffes à rendre. Faire tenir debout une armée de roseaux. Plus personne à genoux fait passer le mot. C'est vrai, la terre est ronde, mais qui viendra nous dire qu'elle est pour tout le monde et les autres à venir? Puisqu'il faut changer les choses.
Il est grand temps qu'on propose un monde pour demain. chose.
Aux armes, citoyens,
il est grand temps qu'on propose
un monde pour demain.
Voilà, maintenant je vais vous parler d'un cas qui a révolté beaucoup de citoyens du monde entier, hein, Sotoudé, qui le 11 mars 2019 a été condamné à 33 ans de prison et 148 coups de fouet. Quel était son crime ? Celui d'avoir défendu les droits des femmes et protesté contre la législation qui impose le port du voile en Iran. Le 13 juin dernier, marquait le triste anniversaire de son arrestation en 2018. À cette occasion, Amnesty International France a convié toutes les associations et tous les citoyens à se joindre à elle pour remettre une pétition de 1 300 000 signatures exigeant sa libération. Donc il y avait des avocats, des associations, des militants, l'actrice Camille Cotin, et plus de 150 personnes qui étaient à nos côtés. On remercie beaucoup les associations d'avoir relayé cet appel. Et voilà, donc le 13 juin 2019, nous étions devant l'ambassade d'Iran à Paris pour remettre cet ensemble de signatures avec la FIDH, l'Observatoire international des avocats en danger, puisque Nasrin Sotoudeh est une avocate, la Ligue des femmes iraniennes pour la démocratie, l'Institut des droits de l'homme et des avocats européens, la Marche mondiale des femmes, l'Association des femmes iraniennes en France, le planning familial et d'autres associations, et ainsi que François Croquette, qui est l'ambassadeur français pour les droits de l'homme. Voilà, nous allons donc maintenant écouter une chanson d'une femme qu'on n'entend pas beaucoup, Hélène Martin.
Et ses chanteurs.
Est-ce une chanson triste ? Malin qui le dira. C'est celle que j'entends tout le long de la piste. Talaloum fadara, talaloum fadara, talaloum fadara, talaloum fadara.
J'en ai plein l'œuf de commenter le verre et le furoncle et tout ce qui s'ensuit. Je veux pomper du vin dans un grand verre et m'évader de l'asile de nuit. Bon, je le sais que la vie est malsaine. Je sais qu'elle est la grand-mère des coups. Oui, je le sais qu'on crève dans la Seine. Faute d'amour, faute des fois de sous. Mais j'en peux plus de porter dans ma tête tous les tracas des compagnons humains. C'est pas pour ça mes parents qu'ils m'ont faite. C'est pas pour ça qu'ils m'ont donné des mains. Ils m'ont donné des mains pour que je pousse sur un drap la fleur de ma pomme fou. Que je me fasse une gentille blouse pour m'en aller du côté de l'amour. Non pas l'amour qui hurle, qui se griffe. Non pas l'amour qui tremble d'exister. Non pas l'amour penché sur l'hiéroglyphe de cette vie arche d'atrocité. Mais l'amour simple au fil d'une balade avec un type, il me dit mon petit, j'aime le flan, il aime la salade. On va sur terre, on s'embrasse à sortie. Traîne-moi car je suis une femme. Serre bien fort que t'es plus grand que moi. Ne parlons plus de la mort ni de l'âme. Jouissons-nous sans nous creuser pourquoi. Jouissons-nous sans nous creuser pourquoi.
Voilà, maintenant nous allons parler de l'aide aux migrants et des citoyens qui, justement, viennent en aide aux migrants. Et pour exercer, justement, cette valeur importante de fraternité, ils sont persécutés, on peut le dire, par le gouvernement et les policiers. Alors, le cas de Tom Siotkowski, qui est un défenseur des droits des migrants, il vient de passer devant le tribunal de Boulogne-sur-Mer et il est accusé d'outrage et violence contre les policiers. Le compte-rendu d'audience avant la décision. Voilà, alors la décision a été attendue le 20 juin 2019. Il a été acquitté, bien sûr. Mais son cas montre bien l'acharnement des autorités contre les gens qui viennent en aide. Alors quand c'est dans la région de Nice, c'est souvent, on va les accuser d'aide à l'entrée irrégulière de migrants. Et à Calais, ça va plutôt être des accusations du type outrage et violence envers les autorités. Voilà. Et c'est le cas de ce Tom. Donc, il y a eu une version des faits qui a été présentée par le brigadier chef, témoignage sous serment, de deux de ses subordonnés, et la suivante. Tom aurait insulté un brigadier chef, utilisant les mots « bâtard »,« bitch » et « fuck » à son encontre. Tom aurait poussé des deux mains le brigadier chef. En réponse, ce dernier l'aurait alors repoussé dans un geste de défense, entraînant sa chute par-dessus la rambarde de sécurité. Tom, dans sa chute, se serait accroché au brigadier et l'aurait entraîné dans sa chute. Le procureur a requis 4 mois de prison avec sursis contre Tom en s'appuyant exclusivement sur le procès-verbal du brigadier, chef et des deux témoignages en appui de ses subordonnés. Sauf que le problème, c'est que toute la scène a été filmée sous plusieurs angles par les nombreux bénévoles présents qui tentaient d'apporter de la nourriture aux migrants. 3 de ces vidéos ont été diffusées à l'audience et montraient clairement les éléments suivants. Aucune insulte n'a été prononcée par Tom. Les mots qu'il a prononcés sont « on ne frappe pas une femme ». Lorsque ce même policier a donné un coup de matraque à l'une des bénévoles. Puis, il a demandé poliment au policier son numéro d'identification. C'est ce qui lui a valu de subir en retour la violence du policier. L'accusation d'outrage est donc infondée. À aucun moment dans les 3 vidéos, Tom ne fait le moindre geste, ni ne touche ou n'effleure le policier. Au contraire, Tom filme toute la scène en tenant son portable dans une main jusqu'à sa chute. L'accusation de violence à son encontre est donc absurde. Enfin, à aucun moment, le policier, contrairement à sa déclaration sous procès-verbal, n'est entraîné dans la chute de Tom. Il se tient parfaitement debout pendant toute la scène. Les preuves vidéo fournies par la défense de Tom Siotkowski, le jeune défenseur des droits humains, accusé d'outrage et violence contre un agent CRS à Calais, révèlent à quel point les accusations des policiers à l'origine de la plainte sont fabriquées de toutes pièces. Ces poursuites infondées sont un bon exemple du type d'accusation que peuvent porter certains membres des forces de l'ordre à l'encontre des défenseurs des droits humains dans la région de Calais et de Grand-Synthe. Elles ont été engagées alors même que les vidéos présentées au procès ont au contraire mis en lumière de graves manquements à la déontologie policière, notamment des insultes et violences à l'encontre des bénévoles. Tom, à sa sortie de prison, a déclaré « Je suis content que le procès ait enfin eu lieu. J'ai confiance dans la justice française parce que je suis innocent. » Nous demandons la relaxe de Tom Siotkowski dans cette affaire. Et c'est ce qui s'est passé le 20 juin, puisqu'il a été relaxé. L'IGPN saisi d'une enquête visant ces 3 policiers. Donc Tom a porté plainte contre les 3 policiers impliqués dans cette affaire pour violence par agent dépositaire de la force publique, faux en écriture publique, faux et dénonciation calomnieuse. Lors de l'audience, le parquet a fait savoir que l'IGPN avait été saisi la veille de l'enquête qui devrait rendre ses conclusions en décembre 2019. Nous demandons que l'enquête ouverte à l'encontre des 3 policiers aboutisse dans des meilleurs délais. C'est en brisant le cercle vicieux de l'impunité que les violences policières et manquements graves à la déontologie observés ces dernières années dans la région de Calais commenceront à reculer. il est urgent que les autorités françaises prennent avec le plus grand sérieux les allégations de violences policières et diligentent des enquêtes indépendantes et impartiales dans les meilleurs délais. Il est surtout urgent que les autorités cessent leur politique de harcèlement des défenseurs des droits humains dans la région, qui font un travail indispensable, palliant aux défaillances de l'État français relatives à ses obligations internationales. Les personnes et organisations en France qui défendent les droits des personnes exilées, les migrants, les réfugiés, font l'objet de pressions de plus en plus importantes en raison de leur action pacifique et désintéressée. La fraternité pour eux, c'est chaque jour. Défendons-les. Interpellez Emmanuel Macron sur ce sujet. Vous pouvez le faire en allant sur le site d'Amnesty, amnesty.fr, et vous verrez que par simple clic, vous pouvez interpeller notre président pour demander que la fraternité ne soit pas que des mots. Voilà.
Et maintenant, une chanson de Maître Gims et Vianney, la même.
Mes amis entendaient la vie que j'ai eue, où les gens m'attendaient, je ne suis pas venu. Si je les emmêle, si je dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange. Je suis trop compliqué, je choisirai jamais que les deux côtés. Ne me demandez pas où je veux aller. Même les singes, singes, les sages, et tous ces sages ont fait des cages où tous nous ranger. Hey,
on y range les gens qu'au fond jamais jamais l'on ne comprend. Comme l'homme est fait de mille bois, ces boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grandes. J'ai suivi mille chemins et serré 10 000 mains. On peut aimer Brel et Meugui, aimer même nos ennemis.
Je suis trop compliqué, je ne rentrerai jamais dans vos petites cases. Je vis au jour le jour, alors je zigzague. Toujours avec ses lunettes noires, j'entends les gens se demander quand est-ce que tombe le masque.
Hey, aïe, 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 aïe.
Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même.
Maintenant, quelques nouvelles brèves. Le prix ambassadeur de la conscience d'Amnesty International est décerné à la militante Greta Thunberg et à son mouvement Fridays for Future. Il y a près d'un an, Greta, 16 ans, lançait une grève étudiante pour le climat en Suède. Depuis, des lycéens et des lycéennes du monde entier ont relayé son action en remplaçant les cours du vendredi par des manifestations pacifiques. C'est Kuminedo, secrétaire général d'Amnesty, qui lui a remis ce prix.
Alors, j'étais ce week-end à l'AG d'Amnesty International France, en Arles, qui a rassemblé presque 500 personnes venues de toute la France, hein, des membres d'Amnesty, des délégués de groupe, du personnel du secrétariat national. Et nous avons notamment discuté avec des spécialistes du changement climatique et de l'influence négative sur les droits humains de ces changements climatiques, puisque souvent ils vont concerner des populations déshéritées et il faut s'attendre à justement un afflux important de réfugiés climatiques dans les années à venir. Donc voilà, Amnesty International s'empare de ce sujet qui nous menace tous et justement va essayer de le porter sous son angle des droits humains, parce que c'est important que les actions entreprises soient respectueuses des droits humains et qu'on n'assiste pas comme ça pour, comme on a vu dernièrement, pour protéger soi-disant une forêt, on va s'en prendre à la population qui vit, autochtone, qui vit dans cette forêt, alors que c'est une population qui, au niveau de l'impact écologique, elle est pratiquement nulle, puisque c'est des gens qui n'utilisent aucune énergie fossile, etc. Voilà, donc on va être attentif à ce que les droits humains soient pris en compte dans toutes les mesures pour faire face à ce défi qui nous menace tous du changement climatique. Et on est bien passé cette semaine pour s'en rendre compte. Voilà, donc c'était intéressant comme débat. Et on va essayer de travailler sur ce thème.
Comment Amnesty a fait changer Renault les militants du groupe d'Avignon? Enfin, Jonathan Allory, de la commission Personnes déracinées, et Geneviève Garrigos, responsable de la région Amérique, interviendront pendant le festival à dessiner et débat. Découvrez le programme détaillé sur notre site et rejoignez-vous à nous. Le mois dernier, le journal Le Monde a publié un article intitulé « Et Amnesty International oblige à Renault à se remettre en cause ». Le texte détaille le travail de la campagne et le plaidoyer réalisé par Amnesty International France depuis 2 ans auprès du constructeur. Nos recherches épinglaient en effet sur les conditions dans lesquelles le cobalt, matière première utilisée pour construire les batteries chaque année, les structures locales d'Amnesty International France organisent depuis plus de 3000 événements en tout genre, projections, débats, concerts, expositions, conférences, foires aux livres, etc., pour faire venir le public à ces événements, tous les moyens de commutation, voitures électriques, étaient extraits en République démocratique du Congo. Depuis, Renault a accepté de prendre des engagements forts et de les tenir afin de s'assurer du respect des droits humains dans sa chaîne d'approvisionnement. Questionné sur le fait de savoir s'ils auraient fait de même si nous n'avions pas fait de campagne, la réponse est non. Cela confirme l'utilité du travail d'Amnesty.
Voilà un exemple de ces produits qui sont utilisés dans les téléphones portables, notamment, hein, comme l'indique Jean-Marc, et que nous utilisons donc tous. Et donc on interpelle donc Renault par rapport aux batteries de voitures, mais on trouve aussi le cobalt dans de nombreux appareils. Et c'est aux entreprises mères de vérifier comment sont extraits ces matières premières. Est-ce qu'on ne fait pas travailler des enfants, des esclaves, etc.? Est-ce que les personnes sont rémunérées correctement? Voilà, c'est tout un ensemble de choses qui sont importantes à vérifier. Voilà, et c'est par la société civile, par les actions d'ONG comme Amnesty, que nous arrivons à un monde meilleur. Voilà.
Et une chanson d'Hélène Martin, Zigane.
Le premier poète à monter, Pierre Segers. Le premier poète à monter mes 6 étages sous les toits,
quai du Louvre. Le premier à dire oui à ma première musique.
Le cœur est fait de mille corps qui se brisent en même temps. Ça fait un bruit épouvantable, puis plus jamais on ne l'entend. Dans la forêt, c'est un grand arbre. Les oiseaux y chantaient dedans. On en fait du bois pour les tables. Les chiens s'y aiguisent les dents. On dira bien que les cigares font revivre les cœurs perdus. C'est une histoire pour les dames. N'en parlons plus, n'en parlons plus. Le cœur est fait de mille cordes qui se brisent en même temps. Ça fait un bruit épouvantable. Jamais on ne l'entend. On dira bien que les cigares font revivre les cœurs perdus. C'est une histoire pour les dames. Parlons plus, n'en parlons plus. La 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 la. C'est une histoire pour les dames. N'en parlons plus. N'en parlons plus.
Voilà, alors à l'AG d'Amnesty en Arles aussi, ça me fait penser en parlant du cobalt. J'ai rencontré un jeune militant qui était invité par le congrès, un militant de la Lucha. Ce sont des jeunes qui se sont rassemblés en République démocratique du Congo pour demander le respect de la démocratie, la fin de la corruption, etc. Ils manifestent régulièrement et ils sont très souvent persécutés par le pouvoir. Il y avait le cas de deux jeunes de la Lucha qui avaient été emprisonnés et finalement libérés sous la pression d'Amnesty International. Et donc ce jeune militant me disait, mais c'est désespérant parce que notre pays est immensément riche. Il y a une légende qui dit chez nous que quand Dieu a créé le monde, il a versé des richesses un peu partout, puis il lui en restait. Alors il a tout versé sur le Congo. Mais c'est à notre malheur parce que toute cette richesse qu'il y a dans notre sol fait qu'il y a de la corruption, elle nous est volée, on n'en bénéficie pas et il y a des guerres, des enlèvements, des viols. Voilà, notre pays est à feu et à sang à cause de cette richesse et on manque de routes, les enfants ne sont pas scolarisés, voilà. Mais bon, on a toujours espoir que ça s'arrange. Pour l'instant, le nouveau président a libéré des prisonniers d'opinion. Il y a des petits progrès, mais ça ne va pas se faire en quelques jours, hélas. Mais enfin, ce jeune militant de la Lucha gardait quand même espoir d'un avenir meilleur pour son pays. Alors on continue avec les réfugiés, hein, pour vous dire que voilà, il y a le cas d'un jeune réfugié afghan qui vient d'exposer ses œuvres. Alors c'est le groupe local d'Amnesty International de Nice qui l'a invité à exposer ses tableaux dans son local le vendredi 24 mai. Cette exposition a été organisée également avec la CIMAD dans le cadre d'une campagne commune qui s'appelle « Halte aux expulsions vers l'Afghanistan ». Hein, le gouvernement français a expulsé des Afghans vers l'Afghanistan, considérant que c'était un pays sûr. Et c'est loin, loin, très loin d'être le cas. Donc on a fait cette campagne pour que les Afghans ne soient pas renvoyés dans leur pays d'origine. Voilà, donc Ahmad, il s'appelle Ahmad, il présente son travail. Et il dit, voilà, quand je suis arrivé en France, je ne parlais pas un mot de français. J'ai alors trouvé la peinture comme langue commune pour pouvoir parler du hurlement intérieur des gens, de la crise d'identité, de l'immigration. Ce fut une soirée pleine d'émotions, hein, puisque Ahmad et sa mère ont fui comme tant d'autres les exactions des talibans. Ils sont arrivés en France en août 2017, après avoir été renvoyés par l'Allemagne, où ils voulaient demander l'asile. Ils ont été accompagnés par la CIMA dans leur démarche et ont obtenu le statut de réfugié politique en janvier 2018. Aujourd'hui, un an et demi après son arrivée dans notre pays, Ahmad parle français. Il reconstruit sa vie en étudiant à l'école des Beaux-Arts de Monaco, où il a pu être inscrit grâce au réseau d'éducation sans frontières, RESF. Et c'est par l'art qu'il arrive à exprimer ses sentiments d'exilé. Si nos militants ont choisi de porter à l'attention du public le travail de ce jeune homme, c'est en raison de son talent, bien sûr. Les militants tenaient à montrer que les réfugiés ne sont pas des assistés, mais des personnes qui, grâce à leur courage et à leur volonté de survivre, enrichissent notre société de leurs talents et de leurs compétences. Ce fut une belle soirée pleine d'émotions, celle d'Ahmad n'arrivant pas à croire qu'autant de personnes se soient déplacées pour lui manifester leur soutien, et celle des bénévoles qui l'ont accompagné dans la longue et difficile procédure de demande d'asile, puis d'intégration dans la société française. Donc, avec la CIMAD, nous nous mobilisons pour dénoncer les renvois de ces personnes vers la mort et la torture. Nous appelons la France à mettre un terme immédiat aux expulsions vers l'Afghanistan. Et nous allons terminer cette émission en retrouvant Maître Gims qui interprète avec d'autres artistes sa chanson « Bella Ciao ».
Mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato ed ho trovato l'invaso.
Tu m'as tant donné, j'attends ton retour, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. J'ai beau chanter, mais j'attends toujours que tu reviennes.
Continue sans toi, tu vas m'en vouloir. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oui, je l'ai fait pour toi, je t'en prie pardonne-moi. Eh. À contre-cœur, oh bella ciao.
La 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 la.
T'envoie mes mots de là où je suis. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Quand tous les efforts, tous les écrits n'ont plus de sens, n'ont plus de prix.
J'ai crié ma peine, mon poing sur les murs. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Crier que je t'aime, briser mon armure. L'âme qui pleure, mais le cœur dur.
La 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 la.
la 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 la. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La 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 la, la 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 la, la 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 la.
Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire.
La 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 la, la 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 la. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La 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 la, la 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 la, la 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 la
la la la la la.
Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission, hein, par cette belle chanson des révolutionnaires italiens qui aurait, paraît-il, une origine russe. Voilà, donc c'est une chanson très connue, reprise par Maître Gims. Voilà. Alors, nous nous donnons rendez-vous maintenant en septembre, hein, le 30 septembre, puisque en juillet, en août, on va un peu souffler, mais bien sûr... on continuera quand même à envoyer les membres d'Amnesty des actions urgentes, à signer des pétitions. Et je vous invite d'ailleurs à aller sur le site d'amnesty.fr au moment de... en début d'après-midi, quand il fait très chaud, vous êtes à la maison. N'hésitez pas à aller sur ce site et vous avez des renseignements sur les situations des droits humains partout en France, dans le monde. Et puis des pétitions à signer en ligne, donc vous pouvez voir les cas et signer ces pétitions. C'est très simple et puis vous apportez ainsi votre contribution à notre mouvement de défense des droits humains pour un monde meilleur pour tous et partout. Voilà, merci beaucoup Jean-Marc, merci beaucoup à vous tous.
Bon été à tout le monde.